C'est notre première chronique de l'année. La première de l'année, bien sûr, avec notre chroniqueur judiciaire et chroniqueur judiciaire au journal Le Soleil, Isabelle Mathieu. Bon matin, Isabelle.
Hey, bon matin tout le monde.
Comment vas-tu?
Ça va bien. Ouais. Ça va. Je peux pas dire que j'ai vu un grand changement avec le changement d'année, mais je suis toujours assis dans mon ordinateur chez moi, avec mon accès, avec toutes mes salles virtuelles. Là, on est pas mal encore au point où on s'est laissé avant Noël.
Il y a quelque chose que je savais pas parce que je fais pas votre métier, mais je me souviens pas il s'est passé quelque chose. Dans un palais de justice un peu plus, pas à Québec, là, ni ceux qu'on entend normalement. Puis ça a sorti dans les médias, puis je me suis dit, est-ce que le fait qu'on soit dans cette situation-là, où vous avez accès quand même à plus de palais de justice, j'ai l'impression que vous avez plus d'accès à plus de palais de justice parce que ça se fait de façon électronique. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va rester dans le sens où il y a un palais de justice à Lac-Mégantic, mettons, à Montmagny, dont on entend peu parler dans des endroits comme ça. Est-ce que tu trouves que tu as un plus grand accès à plus de choses?
Moi, honnêtement, ça fait pas une énorme différence pour moi. Je te dirais que ça doit aider beaucoup les collègues qui couvrent pas le palais à temps plein. Tu sais, ceux qui viennent faire des in de temps en temps, là, ils peuvent le faire de leur salle de nouvelles, de leur studio de radio, donc ça se fait quand même assez bien. Mais puis d'un autre côté, honnêtement, on en manque beaucoup parce qu'on est moins là. Donc je
okay.
Non, moi j'ai vraiment hâte de retourner. Et oui, le virtuel va sûrement rester pour plein de choses, mais non, c'est pas c'est une solution temporaire, j'espère quand même.
Bon, la première histoire est une histoire extrêmement triste et moi, honnêtement, c'est une histoire qui me dit rien, là. Et c'est l'histoire d'un jeune homme de 21 ans, Raphaël Lecourt, un jeune homme de Sainte-Justine. Sainte-Justine, c'est à côté de la Ketchumin. C'est ça,
oui.
Moi, c'est dans mon hood. Alors, il est coupable d'usage et de négligence d'une arme à feu. D'usage d'une arme
oui.
à feu et de négligence criminelle.
Oui. Non, tu te fais bien de dire, c'est une histoire triste, délicate, puis je vais même me permettre de le dire là à tout le monde, aux auditeurs, c'est une histoire qui traite de suicide par arme à feu, fait que je veux juste que vous en teniez compte,
okay.
C'est pas des sujets qui sont faciles pour tout le monde. C'est une histoire qui commence par un fait divers que peut-être là ça va te dire quelque chose. C'est le corps d'un jeune homme qui a été retrouvé au bout d'un rang à Sainte-Camille-de-l'Hélice. Ça, j'avais jamais entendu ce nom de village-là. Ouais, Saint-Camille, en décembre 2019.
Okay.
Et là, c'était très, très flou l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé au jeune homme qui s'appelle Joseph Raphaël Fortin-Bourque, 21 ans, lui aussi de Sainte-Justine. Les crimes majeurs de la Sûreté du Québec en enquête et tout ça. Et là, finalement, on la sait, l'histoire. Là. C'est pas une histoire d'homicide. C'est l'histoire. Donc, Raphaël, lui, Raphaël Lecourt, c'est un jeune qui tripe, qui adore la chasse. C'est vraiment sa passion, là. Il aime aussi le tir sportif. Il a un permis pour avoir un pistolet 9 mm. Son permis, dans le fond, ça lui permet d'aller tirer au champ de tir. Fait qu'il a le droit d'avoir l'arme chez lui, dans le caisson. Il peut le partir avec. Il l'amène au champ de tir, au centre de tir à Sainte-Rose, dans cette région-là. Et il revient chez lui. Et là, un soir de décembre 2019, il est avec deux amis, Michael Poulain et le jeune Joseph Raphaël, dont je parlais quelques secondes. Et là, les gars, eux autres, sont au courant que c'est un tireur. Et là, ils lui disent, on aimerait ça aller tirer avec toi. Et Raphaël est quand même assez hésitant, il est pas sûr. Finalement, il se laisse convaincre et il fixe un rendez-vous. Ils vont lundi. Là, on est samedi soir, puis ils décident d'y aller lundi. Et là, c'est pas tout à fait clair, mais selon ce qui était dit à la cour, le centre de tir était pas ouvert cette journée-là. Donc, Raphaël y amène ses amis au bout d'un rang qui est fermé durant l'hiver. Il n'y a pas de circulation, là, un peu exemple, mettons, Monseigneur Bourgette à Lévis, pour ceux qui connaissent au bout l'hiver. Là, il s'en va, il leur montre comment tirer sur un panneau de signalisation. Donc, lui, il s'installe, il tire. Après ça, il donne le pistolet à Michael, qui tire lui aussi, qui vide le chargeur. Il donne le pistolet ensuite à Joseph Raphaël. Joseph Raphaël tire deux fois sur le panneau. Il dit quelque chose comme « Hey, c'est malade! » Et là, c'est là qu'il retourne l'arme contre lui, vers sa tête, et il tire, et il s'écroule au sol. Donc là, c'est évidemment.
On est à quel moment de la? Okay, je comprends qu'on est un lundi.
On est le matin. On est dans la journée. Dans
on
la
est
journée
un lundi matin, en, ouais. au mois de le 19 décembre.
Ils sont tout seuls, les jeunes. Il n'y a personne. Ils sont au bout d'un rang.
Oui, ça, je comprends des endroits pour aller tirer dans le bout d'un rang, là, un genre de cul-de-sac. Je l'imagine très, très bien. Ils sont combien? Ils sont quatre au total?
Ils sont trois.
Trois? OK. Et là, quand le troisième tire, après deux coups, il dit rien.
Il retourne l'arme contre lui.
Ouais, ouais. Il dit rien avant ça, là,
non, de,
par
rien.
Rapport à sa situation. Là.
Aucunement. Et là, évidemment, c'est la panique. Raphaël, lui, il était comme à 10 mètres à peu près derrière derrière Joseph. Raphaël, hein, c'est un peu mêlant. Ils ont des prénoms qui se ressemblent. Mm-hmm. Et il dit, il va raconter au juge. Puis c'est très difficile ce bout-là parce que tu vois que c'est un jeune. Imagine-toi là, un peu grand ado, pas encore tout à fait adulte, même 21 ans, qui visiblement aime pas ça parler en public, là, gêné, réservé. Puis là, il raconte comment il a paniqué, comment il a tout vu, mais qu'il a rien pu faire, comment il a paniqué. Là, il a pris l'arme, il est allé la serrer dans le caisson de sécurité. Pour lui, son ami était déjà décédé. Il a appelé sa mère, il était en panique complète. Il raconte, il appelle les policiers, il essaye de faire un massage cardiaque. Bon, et là, c'est les secours qui arrivent et Raphaël est arrêté. L'enquête se poursuit et là on va trouver ceux qui vont faire l'enquête vont trouver dans les poches de Joseph Raphaël un message, une lettre où est-ce qu'il annonçait ses intentions de se suicider. Et évidemment pour être certain, ils ont fait faire une expertise en calligraphie qui a confirmé que c'était bien Joseph Raphaël qui avait écrit la lettre. Donc
il fallait qu'il détermine donc l'enquête devait déterminer clairement que c'était pas un meurtre, tu sais.
Mais exactement. Oui, parce que
il y avait plusieurs.
Mets-toi à la place. C'est ça. Mets-toi à la place de la famille du jeune là, qui s'est enlevé la vie là. Pour eux, c'était complètement surprenant parce que je le sais pas là. J'y ai malheureusement jamais parlé à Joseph Raphaël. Mais ce que l'accusé a dit à la cour, c'est que lui était aucunement conscient de rien. Il avait jamais entendu parler de que ce gars-là pouvait être déprimé ou pouvait être en déprime et tout. Donc c'était complètement une surprise pour lui, mais il a été accusé et il a plaidé coupable à usage négligent d'une arme à feu, méfait là, sur la fameuse pancarte, et aussi possession illégale d'une arme à autorisation restreinte chargée. Et là, on est rendu à l'étape de dire c'est quoi la peine que ça vaut ça, cet événement-là. Hein? Donc, son avocat était, encore une fois, dans une position un peu délicate, hein, parce que il sait bien que c'est des conséquences absolument tragiques, mais en même temps, son client, c'est un jeune, pas d'antécédent judiciaire, qui a bûché toute sa jeunesse pour finir par avoir un cours, puis là, il y a une job qu'il aime dans une usine, dans une entreprise qui fait du traitement des eaux usées. Et cette entreprise-là a des contrats partout en Amérique du Nord. Donc, ce que son avocat demande, c'est une absolution conditionnelle à un don à un organisme de prévention du suicide. Et ce que ça va permettre, ça, c'est que j'ai relu ça hier parce que des fois, c'est un peu flou pour moi. Une absolution, t'as un casier au départ, mais il va s'effacer automatiquement après un an si c'est inconditionnel et après 3 ans si c'est conditionnel.
C'est ça.
Donc, c'est
mais
pour
faut
laisser...
Mais si tu traverses les douanes, là, faut que tu le mentionnes quand même parce qu'il y a toujours des traces.
OK,
il y a trois affaires. Il y a les absolutions, les deux absolutions et le sursis de sentence.
Oui.
Donc, c'est toutes des choses où t'as pas vraiment de casier. T'es pas reconnu criminellement pour traverser, par exemple, aux États-Unis. Mais si on te demande si t'as un dossier, tu dois répondre oui, parce qu'ils vont voir des traces dans la majorité des cas.
Et là, t'aurais menti si t'avais dit non. Là. Okay,
exactement, puis là, ça va être compliqué.
Oui, oui, oui. Et donc, son avocat dit, c'est ça, c'est que nous, on veut laisser les chances à ce jeune-là de garder son emploi qu'il aime et tout. De l'autre côté, ben la couronne, c'est aussi un peu malaisant parce qu'il voit bien le profil. Mais lui, il dit, garde, d'habitude, des accusations d'usage négligent d'armes à feu, c'est de la détention qu'on demande. Donc là, il propose plutôt, le procureur de la couronne, une sentence suspendue durant la probation de 2 ans avec le maximum d'heures de travaux communautaires, 240 heures de travaux communautaires. Donc là, le juge va penser à tout ça. Ça va être au mois d'avril là, qu'on va savoir exactement la décision.
C'était ça, Saint-Joseph, ça?
C'était à Montmagny.
C'était à Montmagny,
okay. Capitale du crime. Hein? On est souvent là.
C'était pas Hubert Couture, donc, il y a cette chance-là.
Mais ce qui est dur, là, puis son avocat de la défense avait raison de le souligner, c'est que ce jeune-là vit, tu sais, il vit dans un village, hein. Mmh. Fait qu'il vit avec le jugement des autres, il vit avec des gens qui pensent qu'il est peut-être un tueur, c'est dur, on voit que c'est dur pour ses parents aussi, c'est très déchirant, puis, on a très peu d'informations. En tout cas, le tribunal avait très peu d'informations par rapport aux victimes, à la famille de Joseph Raphaël.
Ils sont pas là.
Ils étaient pas là.
Ah,
non,
ouais,
ils ont décidé. Ils étaient au courant que tout ça se passait. Évidemment, là, l'enquêteur de la Sûreté du Québec fait le suivi avec eux, mais ils ont choisi de pas être là. Je sais pas s'ils sont encore d'avis que c'est un homicide. Là, je peux pas parler pour eux. Ça semblait être leur opinion au début, mais là. Ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas la même vision du dossier, donc ils ne voulaient pas être là hier.
OK. J'essaie parce que moi, je m'y connais rien en armes à feu, là, puis peut-être, je ne veux pas de, être
pas tant,
complexe.
Moi non plus.
Non, je sais, mais par rapport à ce que tu as entendu, j'essaie de voir quel est exactement le geste illégal qu'a commis Raphaël Lecour. L'arme à feu, il a le permis pour la transporter.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que son permis le restreignait à la charger uniquement au club de tir de Sainte-Rose?
Oui, c'est vraiment ça. Il pouvait pas aller tirer sur un panneau sur le bord de la route comme ça. Là. Évidemment, même si je te dis le bout de route était fermé, il y avait personne, c'est quand même pas un environnement sécuritaire pour tirer. Donc, il y a un aspect de négligence là-dedans. Ce qu'ils ont soulevé aussi, c'est qu'évidemment, il savait pas les connaissances en tir de ses amis. Il savait pas l'aspect. Il a pas vérifié. Ils ont-tu déjà eu un permis? Ils ont-tu déjà suivi des cours? Donc, il y avait pas, évidemment. Là, c'était un geste plutôt impulsif, là, une expédition de trois gars qui partent tirer du pistolet ensemble.
Là. Bon, moi, je connais beaucoup de monde dans ces municipalités-là. Là. J'espère. Peut-être, tu me dis peut-être que la famille de Joseph Raphaël a pensé que c'était peut-être un homicide.
Ouais.
Faut pas oublier qu'il y a un autre témoin là-dedans. Est-ce que lui est venu dans le tribunal, le troisième individu qui est là, il a vu ça aussi, là. Pis...
Oui, c'est plus délicat. Lui aussi, il fait face aux accusations.
Ah ouais.
Oui, il est accusé lui aussi là de méfaits puis usage négligent et tout ça. Et je c'est pas terminé dans son cas à lui. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est plus, il est toujours présumé innocent et tout ça là. Donc c'est pour ça qu'on a moins d'informations pour ce qui est de Michael.
Il y a quelqu'un qui m'écrit là. Il y a des gens qui écrivent au 25226 qui disent. C'est ça, quand tu as ce genre de permis restreint-là de port d'armes, surtout pour un pistolet comme ça, il dit c'est directement au chantier. Apparemment, tu peux même pas t'arrêter de mettre de l'essence. Ça veut dire c'est entre la résidence et le chantier. Mais en même temps, c'est pas un crime majeur. Là, j'espère pour lui.
99% du temps, ça n'aurait pas eu de conséquences majeures, là, mais c'est juste que là. Ça nous pousse à réfléchir, à dire, quand on est un propriétaire d'armes, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour savoir si on a des gens autour de nous qui sont vulnérables, qui sont en détresse? C'est pas si évident que ça. Puis je me replace à l'âge de 20-21 ans, là. C'est encore moins évident, là. On n'a pas l'expérience de la vie et tout, là. Fait que c'était dans le délicat de chez délicat, là.
OK. En terminant, parce que c'est quand même spécial, ça s'est réglé ou presque, il reste à avoir la sentence. Oui. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus bientôt. Mais ça s'est quand même.
Avril. C'est le rythme de la justice, Stéphane. Avril.
Oui, mais justement, moi, mais dans ce cas-là, ça va avoir pris à peu près juste un an avant que ça procède. Un peu plus d'un an avant que ça procède.
Quand
c'est quand même allé vite. Ça veut-tu dire qu'il avait plaidé coupable? Puis qu'il...
Oui, il a plaidé coupable assez rapidement, mais je pense que les délais sont dus là, à la pandémie. Là. Ça serait déjà réglé, sûrement. Là.
Bon, puis c'est ça. Fait que lui, il a choisi de ne pas remettre parce que des remises de cause, il y en a une, il y a une autre. Quand vous allez vous asseoir au palais de justice, là, on peut pas, là, mais quand on va s'asseoir au palais de justice, là, c'est drôle. C'est la chose la plus drôle, les remises de cause, les raisons. Puis des fois, si je me trompe pas, Isabelle, tu me corrigeras, même le juge va dire au greffier ou à la greffière, appelle-le donc voir. Fait que là, elle l'appelle. Ah, son char partait pas à matin. Il dit, attends. Et de voir, je ne sais pas à quel point les avocats de la défense, des fois, sont complices, mais des fois, ils ont de l'air vraiment désemparés. Hein? Puis là, ils regardent le monde et disent, mais ils m'avaient vraiment dit qu'il allait être là, puis il n'est pas là, puis...
Peuvent-tu finir par choisir leur juge de cette façon-là, ben, en remettant des comptes?
Moi, on m'a déjà dit que oui. Entre autres, les gens au niveau criminel ne veulent pas voir Hubert Couture. Moi, je suis un juge que j'apprécie, que j'adore énormément, mais il est très sévère. Est-ce que... Donc, Isabelle, la question à Renal, c'est, est-ce qu'on peut vraiment en se déplaçant, choisir notre juge où c'est toujours remis devant le même juge, puis des remises, c'est vrai que c'est drôle. Hein?
Oui, c'est vrai que c'est drôle. Puis non, pour la question de Ray, il essaye de magasiner parce que les horaires des juges sont disponibles pour les avocats, donc ils peuvent s'essayer, mais des fois, ils se font jouer des tours parce qu'il y a des changements dans les salles et un juge n'est pas disponible, on l'envoie faire d'autres choses et tout ça, donc des fois, ça marche pas. Mais oui, c'est clair là, qu'il y a du magasinage qui se fait avec les remises.
En tout cas, moi, si je suis condamné accusé de quelque chose un jour, je vais prendre le juge Alain. C'est pas dû? Je peux-tu? Moi, j'ai payé un verre, mais correct.
Okay. Fait que tu veux que je te compte celle de hier?
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, pendant que j'attendais pour le dossier de Raphaël, j'écoutais distraitement. Et là, j'entends la cause de M. Gagnon. Je sais même pas son prénom. J'écoutais pas à ce moment-là. Mais écoute, lui, là, il a demandé la remise. C'est un monsieur qui était accusé d'une infraction par infraction sommaire, là, donc les moins graves, une possession d'armes, pas de permis et tout ça. Un truc d'armes à feu, mais dans la catégorie plus léger, là, disons. Et là, il commence à dire, ça devait être son procès hier à Montmagny. Et là, il commence à dire, oh là, je peux pas, monsieur juge. Il est un peu essoufflé, là, il parle lentement. Il dit, je peux pas, là, je suis comme empoisonné dans ma maison. Là, le juge Magnan le regarde, il se lève les yeux, il dit, racontez-moi ça. Il dit, ben oui, c'est ça, là, l'environnement est pas sain dans ma maison, à cause du courant électrique, je suis rendu que je dors dans mon auto, faut que j'aille faire des marches de 3 heures par jour dans le bois. Et là, le juge l'écoute. Là, il voit, il y a des policiers dans la salle qui sont venus qui vont être les témoins au procès. Tout le monde est là.
Le monsieur, il est dans la salle ou il est en vidéo?
Oui. Et il n'y a pas d'avocat, il est dans la salle et c'est lui qui parle parce qu'il n'y a pas d'avocat. Alors, c'est toujours plus drôle dans ce temps-là. Et là, donc là, le juge, là, je pense qu'il s'est dit dans sa tête, non, j'embarque pas là-dedans. Alors là, il dit, bon, OK, monsieur, je comprends, là, vous avez un problème d'onde, là, avec les ondes. Il dit, non, monsieur, juste pas ça, c'est les problèmes de tension parasite. Puis là, il repart, je suis allé chez mon gars, j'ai tout sorti le Wi-Fi, là, j'allais mieux. Puis là, le Hydro-Québec va venir, ils vont enlever un transformeur, ça va être correct, je vais pouvoir faire mon procès quand le transformateur?
Transformateur, je pense.
Transformateur, mais... hein, et on voit mes compétences en électricité.
Mais tu sais, Stéphane, en français, là, non.
C'est vrai, c'est pas une référence.
Quand le transformateur va être enlevé, monsieur le juge, je vais être capable de faire mon procès. Fait que là, on voit, là, OK. Donc là, le juge dit non. Garde ta ligne, tu t'obstines pas avec lui. Il dit, OK, monsieur, je comprends, vous êtes pas capable. Mais au début, il essayait de le challenger. Bon, voyons, là, qu'est-ce qui va arriver si Hydro-Québec vient pas le changer, là? C'est votre responsabilité d'être correct pour votre procès. Mais là, il dit, OK, là, on va le mettre ça au mois de mars. Ça va être devant moi. Puis, courant, pas courant, tension parasite, pas tension parasite, on fait le procès au mois de mars. Puis là, il a dit, OK, c'est beau, monsieur le juge, merci.
Tabarouette. Écoute, c'est comme ça, puis il y en a vraiment. Puis là, c'est parce que celle-là est arrivée hier, là, mais il y en a. Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait présenté, qui s'était pas présenté, mettons, genre 2-3 semaines, un mois avant, là, je me souviens pas. Puis là, il devait justifier l'absence.
Oui, il était en relevé de défaut, quelque chose de même.
Exact.
Là.
Et là, il présente un billet du médecin, mettons, écrit en stylo, à l'encre noire, mais dont la date est corrigée en stylo bleu. Hey,
okay.
Là, le juge, il repitche ça, il dit, hey, là, c'est parce que vous voyez bien qu'il y a quelqu'un qui a changé la date, là. Hey, c'était drôle, mais, tu sais, en même temps, tu peux pas traiter tout le monde de crosseur, mais là, c'est vraiment...
C'est ça, puis les juges, ils ont pas toute la journée pour traiter ces dossiers-là. Là, ils ont des fois des rôles d'une centaine de dossiers, là, fait qu'il faut que ça roule. Oui, ça fait qu'ils ont pas le choix peut-être d'en laisser passer une de temps en temps pour dire, bon, là, garde, on opère. Là.
Bon, là, Isabelle, tu sais que ta chronique est extrêmement appréciée. Puis là, je voyais les gens se questionner, dire, hey, mon Dieu, je pensais l'avoir manqué.
Donc, ils sont bien fins.
Oui, et là, mais moi, puis on se parle pas dehors, on s'appelle pas tant souvent, hein, finalement.
Pas tant, non. Deux Lévisiens, pourtant, on se néglige, je trouve.
Est-ce qu'on revient les jeudis aux 2 semaines après ça?
Oui, ça devrait. Okay. Je pense qu'on peut refixer notre jeudi. Là, j'avais un petit projet spécial pour lequel je dois travailler. Donc, j'ai pour ça que je t'ai demandé un décalage d'une journée. Mais oui, il n'y a pas de problème.
Puis moi, c'est toujours oui. Fait que c'est aucun problème. C'est juste que les gens qui sont fidèles. Et de toute façon, vous aimez la chronique à Isabelle. Elle est toujours bien découpée dans les podcasts qu'on retrouve sur.
Sur notre site, oui.
Sur le site web du 93. Ouais. C'est ça. Fait qu'il y a une autre place où on a les podcasts un peu balado puis tout. C'est tout là partout.
Un de ces quatre.
Bon, fait que, hey, merci beaucoup, Isabelle. Puis,
Isad, je sais qu'il faut que tu quittes, là, mais il y a une question qui est revenue un petit peu plus souvent quand même. Je pense que tu en avais parlé dans les dernières chroniques. Là, si les gens veulent assister à des procès en web diffusion, comment ça peut fonctionner? Est-ce qu'on a accès à ça? Est-ce qu'on n'a pas accès à ça? Peut-être juste un petit rappel, vite.
Ouais.
Honnêtement, là, puis là, je vais me mettre une vraie note, puis je vais vraiment le vérifier pour te donner la vraie réponse. C'est que j'en ai vu des membres du public qui assistaient à des procès. Okay. Il fallait que les gens aient un code, mais je ne sais pas comment ils l'ont obtenu. Alors, c'est pour ça que je vais tout valider ça, promis. Ce que ça va impliquer, c'est ça, c'est que les gens s'identifient, disent je suis membre du public, la caméra est fermée, le micro est fermé ensuite, et vous pouvez assister. Parce que on a encore le droit d'aller dans les salles d'audience, mais le nombre de gens est tellement réduit qui peuvent être dans la salle à cause des mesures sanitaires qui sont encore en vigueur que c'est pour ça que c'est un risque là, d'aller au palais puis de se cogner le nez sur la porte là. Mais oui, promis, là, je me mets une note et on commence avec ça pour régler la question.
Colosse Plamondon, l'as-tu ton code?
Oui, j'ai le code, moi.
Pauvre Colosse.
Hey, merci Isabelle, à bientôt.
À bientôt, bye-bye.
Isabelle Mathieu, chroniqueur judiciaire au journal Le Soleil.
Faut que ça sorte.
oui, c'est ça, qui suit pour nous, donc, ce qui se passe dans les palais de justice. Vous voyez, on était à Montmagny dans ce cas-ci.
En fin de semaine, Jacques Messrine, il y a un gros procès qui a été fait à Montmagny sur Jacques Messrine. Ça a marqué l'histoire.
Ouais. Ben, c'est le procès
qui... Son procès pour avoir tué une commis de dépanneur, sauf
erreur. C'est le garde-chasse.
Il y a eu un gros procès à Montmagny de Jacques Messrine.
Ah, ok. Hey, je suis
de Percé.
Aubergiste, c'est ça. C'est un aubergiste.
Ok, aubergiste. Moi, je savais que c'était en Gaspésie, là. Mais il n'y a pas de tiriste des gardes-chasse aussi?
Une tiriste sur plein de monde, ça a l'air.
Ouais.
Parce qu'il voulait tenir le procès à Percé, mais comme c'était un procès, c'était un événement beaucoup trop médiatisé à Percé, ils n'ont trouvé personne pour composer le jury. Tout le monde avait une opinion. Donc, ils ont déménagé ça à Montmagny.
Ok, je savais pas.
Il a été acquitté.
Je suis jamais allé, moi, au palais de justice à Montmagny.
Non?
Non, jamais. Puis, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, quand Marc Bellemare était ministre de la Justice, il voulait fermer ce genre de palais de justice-là. Puis, j'étais un peu d'accord. Tu sais, il y a des endroits... Tu sais, Montmagny, là, c'est une demi-heure, 45 minutes de Québec. Tu sais, des fois, on essaie de couper dans les dépenses là, pour augmenter l'efficacité. J'imagine que ça pourrait facilement être fait. Je comprends qu'on peut pas toutes les faire, mais tu sais, il me semble un Saguenay, un gros Saguenay, peut-être un gros dans le bas du fleuve. Tu sais, mettons les gens. C'est sûr qu'il y en a un à Rimouski, puis il y en a, me semble, un à Rivière-du-Loup aussi.
Ouais. Saguenay, ça roule, hein? Ouais, en tout cas, j'ai étudié à Jonquière, puis ils nous faisaient aller au palais de justice, c'est vrai. Dans nos études, ça roulait.
Ça fait affaire. Oui, puis, tu sais, comme à Québec, ben, je suis déjà allé au palais de justice de Québec souvent. Ben, quand j'ai contesté un ticket, je suis allé à la cour municipale, qui, ça, est dans la. Souvent, comme à Lévis aussi, c'est dans la salle du conseil de la ville de Lévis où ont lieu les procès municipaux. Les contestations aussi d'amende face à la ville.
À Charlebourg, c'est dans l'ancien hôtel de ville, là, sur la 76. La cour municipale était là, en tout cas.
OK, je ne sais pas si c'est encore là. Puis dans le palais de la mairesse, il doit y en avoir. Je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais pas si c'est tout regroupé. C'est au parc Victoria, moi,
je
suis allé.
Je ne sais pas s'il y en a encore.
Mais leur objectif dans la restructuration des services policiers, c'est probablement de regrouper tout ça à un même endroit, là, genre à FX Drolet, probablement, ou quelque chose comme ça.
Oui, mais les petites cours municipales, ça peut être utile si ils ont gardé dans les anciens hôtels de ville.
Oui, puis ça et tout, c'est le fun, là, tu sais, de voir ça, puis de, tu sais, il y a du monde fucking en tas, là.
Arrête donc.
Tu sais.
Mais ça, t'en as TV aussi.
C'est mon rêve de faire Court TV avec des heures de Divorce TV. Puis
Judge.
Pas de juge. Non, on va le faire, moi. Oh. Moi, je vais les régler, les divorces.
Ça, c'est plus ça, là.
Mais en même temps, en étant, j'ai été nommé par un Belge dont le nom m'échappe ce matin.
Oui.
Il m'a nommé ambassadeur de l'amour pour le Québec. Et tu as un accident? Ouais, le gars, c'est quatre flasheurs. OK. C'est vrai que les quatre flasheurs, ça veut pas toujours dire qu'il y a un accident.
Non, c'est ça.
Fait que, mais comme ambassadeur de l'amour, je suis convaincu qu'il y en a qui arrivent à l'étape du divorce que je serais capable de ramener ensemble.
Oh, oui.
Fait que, absolument.
Ça, c'est des petits problèmes, selon toi, qui ont mené au divorce?
J'aurais une cause pour toi, Tortorella et Dubois. aimerais avoir conseil.
Ouais, ça serait tough. Ça serait facile. Non, ça serait facile de mettre un peu d'eau dans leur vin puis de dire, hey, les gars, ayez donc du fun un peu. Amusez-vous un petit peu. OK.
Oui, 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 oui.
94, Corey Perry.
Médéric Côté était un agent de la faune qui aurait été tué par Messrine.
OK, c'est bon.
C'est ça, je me souviens, moi, je me souviens de l'affaire de l'agent de la faune. Mais
Jacques Messrine, il s'est pas limité à un crime, non, non. Dit, là.
T'as-tu vu comment il est mort, Jacques Messrine?
Comment,
donc? On est à Paris. Il est dans une voiture avec une femme.
Il s'est fait tirer, hein?
Ils sont 20.
Oui.
Une vingtaine. J'exagère peut-être un peu, là, mais plus de 10 dans l'arrière d'un camion. Imaginez-vous un genre de camion de livraison ou d'armée avec le panneau arrière qui est une toile.
Oui, oui.
Et ils sont là, la mitraillette, et Messrine suit ce camion-là déjà depuis le camion s'organise pour que Messrine le suive.
Oui, oui,
et quand il arrête, il y a un genre de rond-point, on est assez au cœur de Paris, là, et Messrine s'arrête, le camion s'arrête à un feu rouge, et là, la toile lève, et ils mitraillent. Ils ont tué la fille aussi, là.
Oui.
Ils ont détruit la voiture à coups de mitraillette.
Il y avait un reportage en fin de semaine, ça, je t'ai parlé de ça, là. Je l'ai lu, c'était dans un des deux journaux en fin de semaine. Soleil, c'est ça. Puis on voit la voiture avec les trous de balles dans le
pare-brise. Ah, c'était épouvantable. Puis et pourquoi en fin de semaine, c'était un anniversaire?
50 ans, peut-être.
Ça faisait peut-être 50 ans, hein, c'est ça? Je l'ai pas vu passer. C'est ça.
Et si j'ai une suggestion, 50 ans du procès qui est survenu à Montmagny.
À Montmagny.
Ça a l'air que les gens en parlent encore à Montmagny de ce procès-là. Les plus vieux, évidemment.
Ben, impressionnant quand même. Pour eux,
parce que Gilbert m'en a jamais parlé.
Moi, je vous suggère peut-être d'écouter les deux films parce que c'est vraiment en deux films, là, Messrine ou Mérine, peu importe comment.
Hey, je l'ai dans mes affaires d'enregistrer, ça.
Mais je sais pas, c'est peut-être un documentaire parce que les films, là, c'est avec Roy Dupuis, entre autres. Là.
OK.
Puis t'as le premier film qui est au Québec, puis le deuxième en France ou l'inverse. Je me souviens pas dans quel ordre ça s'est fait, mais c'est super bon. C'est intéressant.
Hey, d'ailleurs, peux-tu me vérifier quelque chose? Au Canal D, pas là, tu me répondras ça plus tard parce qu'il faudra tu fouilles un peu plus. Au Canal D, c'était peut-être hier, jeudi, Colin, il y avait, on présentait un reportage sur Tiger King. Comment il s'appelle, lui? Comment il s'appelle, non, le gars, le fou? Là?
Fait Joe Exotic.
Oui.
Comment?
Joe Exotic.
Joe Exotic, en plein ça.
Que
s'est-il vraiment passé? Est-ce que c'est le documentaire de Netflix où on est ailleurs, là, avec avec ce qu'on a présenté en français?
C'était hier à 22h, en tout cas.
C'était hier à 22h, mais au Canal 2, ça a des chances d'en passer.
Ça se pourrait.
Je te demande s'ils l'ont acheté à Netflix, puis s'ils l'ont réalisé.
Et pourtant, Netflix, ils l'ont en français, fait que c'est pas le style de vendre ça à de la télégénéraliste ou téléspécialisé, peu importe. Mmh. Alors, c'est peut-être un autre angle pour qu'on en comprenne un peu plus sur...
Ouais, c'est Max Talbot qui fait l'émission ou pas lui qui faisait d'un autre?
D'un autre angle, c'est lui, oui. Mais là, on parle de Joe Exotic.
Jonathan Bernard, tu as vérifié quelque chose. Cour municipale Centrale Victoria, Hôtel de Ville, Sainte-Foy. Celle de la Centrale Victoria va déménager à l'édifice FX Drolet.
Ben, okay. Mais celle de Sainte-Foy va rester en place. Donc, voilà. Merci. Ici, Jonathan Bernard. Qu'est-ce qu'on fait? Une pause.